Chapitre 3e. Daenerys, gentleman détective. La réunion projetée eut lieu à 2 heures dans le boudoir de Régine Aubry. Dès son arrivée, Van Houben trouva Daenerys installé là comme chez lui, et plaisantant avec la belle actrice et avec Arlette Mazol. Tous trois semblaient très gais. On n'eût pas dit, à la voir insouciante et joyeuse, bien qu'un peu lasse, qu'Arlette Mazol avait passé la nuit précédente de telles heures d'anxiété. Elle ne quittait pas Daenerys des yeux, et comme Régine, approuvait tout ce qu'il disait, et riait de la façon amusante dont il le disait. Van Houben, vivement éprouvé par la perte de ses diamants, et qui prenait la vie au tragique, s'écria d'une voix furieuse « Fichtre, la situation vous paraît donc si drôle à vous trois ?»« Ma foi, » dit Daenerys, « elle n'a rien d'effrayant. Au fond, tout a bien tourné. Parbleu, ce ne sont pas vos diamants qu'on a subtilisés. » Quant à Mademoiselle Arlette, tous les journaux de ce matin parlent de son aventure, qu'elle réclame. Il n'y a que moi qui perds dans cette sinistre affaire.
Arlette, protesta Régine, ne vous offusquez pas de ce que dit Van Houben. Il n'a aucune éducation, et ses paroles n'ont pas la moindre valeur.
Voulez-vous que je vous en dise qui en est davantage, ma chère Régine?
Bougonna Van Houben.
Dites. Eh bien, cette nuit, j'ai surpris votre sacré Daenerys, à genoux, devant Mademoiselle Arlette, en train d'expérimenter sur elle la petite méthode de guérison qui vous a si bien ressuscité il y a une dizaine de jours.
C'est ce qu'ils m'ont raconté tous les deux.
Hein, quoi? Et vous n'êtes pas jalouse?
Jalouse.
Dame, Daenerys ne vous fait-il pas la cour?
Et de fort près, je l'avoue.
Alors vous admettez?
Daenerys a une excellente méthode, il l'emploie, c'est son devoir.
Et son plaisir?
Tant mieux pour lui.
Van Houben se lamenta. Ah, ce Daenerys, il en a de la chance. Il fait de vous ce qu'il veut,
et de toutes les femmes d'ailleurs.
Et de tous les hommes aussi, Van Houben, car si vous le détestez, vous n'espérez qu'en lui pour vos diamants.
Oui, mais je suis absolument résolu à me passer de son concours, puisque le brigadier Béchou est à ma disposition et que...
Van Houben n'acheva pas sa phrase. S'étant retourné, il apercevait sur le seuil de la porte le brigadier Béchou.
Vous êtes donc arrivé, brigadier?
« Depuis un moment, » déclara Béchou, qui s'inclina devant Régine Aubry. La porte était entrouverte.
« Vous avez entendu ce que j'ai dit ?»«
Oui. »«
Et que pensez-vous de ma décision ?»
Le brigadier Béchou gardait une expression renfrognée et quelque chose de combatif dans l'allure. Il désigna Jean Daenerys comme il l'avait fait la veille et articula fortement.
« Monsieur Van Houben, bien qu'en mon absence l'affaire de vos diamants ait été confiée à l'un de mes collègues, il est hors de doute que je participerai aux investigations et d'ores et déjà, j'ai reçu l'ordre d'enquêter au domicile de Mademoiselle Arlette Mazol. Mais je dois vous prévenir de la façon la plus nette que je n'accepte à aucun prix la collaboration ouverte ou clandestine d'aucun de vos amis.
C'est clair, dit Jean Daenerys en riant. Très clair.
Daenerys, fort calme, ne dissimula pas son étonnement.
Bigre, monsieur Béchou, on croirait en vérité que je ne vous suis pas sympathique.
Je l'avoue,
fit l'autre avec rudesse. Il s'approcha de Daenerys et bien en face.
Êtes-vous bien sûr, monsieur, que nous ne nous sommes jamais rencontrés?
Si, une fois, il y a 23 ans, aux Champs-Élysées, on a joué au cerceau ensemble.
Je vous ai fait tomber grâce à un croc en jambe que vous ne m'avez pas pardonné, je m'en aperçois.
Mon cher Van Houben, monsieur Béchou a raison. Pas de collaboration possible entre nous. « Je vous rends votre liberté et je travaille. Vous pouvez vous en aller. »«
Nous en aller ?» dit Van Houben.
« Dame, nous sommes ici chez Régine Aubry. C'est moi qui vous ai convoqué, puisqu'on ne s'accorde pas. Adieu, filez !»
Il se jeta sur le canapé entre les deux jeunes femmes et saisit les mains d'Arlette Mazol.
« Ma jolie petite Arlette, maintenant que vous avez repris votre équilibre, ne perdons pas notre temps et racontez-moi par le menu ce qui vous est arrivé. Aucun détail n'est inutile. »
Et comme Arlette hésitait, il lui dit « Ne vous occupez pas de ces messieurs, ils ne sont pas là, ils sont sortis. »
« Donc, raconte, ma petite Arlette, je te tutoie parce que j'ai promené mes lèvres sur tes joues qui sont plus douces que du velours et que cela me donne les droits d'un amoureux. »
Arlette rougit. Régine riait et la pressait de parler. Van Houben et Béchou, qui voulaient savoir et profiter de la conversation, semblaient cloués au sol comme des bons hommes de cire. Et Arlette dit toute son histoire, ainsi que le lui avait demandé cet homme, à qui ni elle ni les autres ne paraissaient capables de résister. Il l'écoutait sans un mot,
Parfois, Régine approuvait.
« C'est bien cela. Un perron de 6 marches,
oui.
Un vestibule, dallé noir et blanc. Et au premier, en face, le salon avec des meubles en soie bleue. »
Quand Arlette eut fini, Denry s'arpenta la pièce, les mains au dos, colla son front à la vitre et réfléchit assez longtemps. Puis il conclut, entre ses dents,
« Difficile, difficile.
Néanmoins, quelques lueurs. Ces premières lueurs blanches qui indiquent l'issue du tunnel. »
Il reprit place sur le canapé et dit aux jeunes femmes,
« Voyez-vous, quand il y a 2 aventures d'un parallélisme aussi marqué, avec procédés analogues et même protagonistes, car l'identité du couple ennemi est indéniable, il faut découvrir le point par où les 10 aventures se distinguent l'une de l'autre et, quand on l'a découvert, ne plus s'en écarter, avant d'en avoir déduit toutes les certitudes. Or, toute réflexion faite, le point sensible me paraît résider dans la différence des motifs qui ont amené votre enlèvement, Régine, et votre enlèvement, Arlette. »
Il s'interrompit un instant et se mit à rire.
« Ça n'a l'air de rien, ce que je viens de formuler, ou, tout au plus, d'une vérité de la palisse, mais je vous affirme, moi, que c'est rudement fort. La situation se simplifie tout à coup. Vous, ma belle Régine, pas la moindre espèce de doute, vous avez été enlevée à cause des diamants, que ce brave Van Hooven pleure de toutes ses larmes. Là-dessus, pas d'objection, et je suis certain que M. Béchou lui-même, s'il était là, serait de mon avis. » M. Béchou ne souffla pas mot, attendant la suite du discours, et Jean Denry se tourna vers son autre compagne.
« Quant à toi, la jolie Arlette, aux joues plus douces que le velours, pourquoi a-t-on pris la peine de te capturer ? Toutes tes richesses doivent tenir à peu près dans le creux de ta main, n'est-ce pas ?»
Arlette, aux joues plus douces que le velours, comme il disait, montra ses 2 pommes.
« Toutes nues ! »
s'écria-t-il.
Donc, l'hypothèse du vol est écartée, et nous devons considérer comme seul mobile l'amour, la vengeance ou telle combinaison propre à l'exécution d'un plan que tu peux faciliter ou bien auquel tu peux mettre obstacle. Pardonne-moi mon indiscrétion, Arlette, et réponds sans pudeur. As-tu aimé jusqu'ici ?
Je ne crois pas.
As-tu été aimé ?
Je ne sais pas.
Cependant, on t'a fait la cour, n'est-ce pas ?
Pierre et Philippe.
Elle protesta ingénument.
Non, ils s'appelaient Octave et Jacques.
D'honnêtes garçons, cet Octave et ce Jacques ?
Oui.
Donc incapable d'avoir marché dans toutes ces combinaisons.
Incapable.
Alors ?
Alors quoi ?
Il se pencha sur elle, et doucement, de toute son influence pénétrante, il murmura
« Cherche bien Arlette.
Il ne s'agit pas d'évoquer les faits extérieurs et visibles de ta vie, ceux qui t'ont frappé, et que tu aimes ou n'aimes pas te rappeler, mais ceux qui ont à peine effleuré ta conscience et que tu as pour ainsi dire oublié. Tu n'aperçois rien d'un peu spécial, d'un peu anormal ?»
Elle sourit.
« Ma foi, non, rien du tout. »
« Si, il n'est pas admissible qu'on t'ait enlevé de but en blanc. Il y a sûrement une préparation dont certains actes t'ont frôlé à ton insu. Cherche bien. »
Arlette cherchait de toutes ses forces. Elle s'ingéniait à extraire de sa mémoire les menus souvenirs endormis qu'on exigeait d'elle. Et Jean Denrys précisait.
« As-tu jamais senti une présence quelconque rôder autour de toi dans l'ombre ? As-tu éprouvé un petit frisson d'inquiétude comme au contact d'une chose mystérieuse ? Je ne te parle pas d'un danger réel, mais de ces menaces vagues où l'on se dit « Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ?»
Le visage d'Arlette se contracta légèrement. Ses yeux semblèrent se fixer sur un point. Jean s'écria
« Ça y est, nous y sommes.
Ah, dommage que Béchou et Van Hooven ne soient pas là. Explique-toi, ma jolie Arlette. »
Elle dit pensivement
« Il y avait un jour un monsieur... »
Jean Denrys l'arracha du canapé, enthousiasmé par ce préambule, et se mit à danser avec elle.
« Nous y voilà !» Et ça commence comme un conte de fées. Il y avait un jour.
« Dieu, que tu es charmante, Arlette, aux joues douces.
Et qu'est-il advenu de ton monsieur ?»
Elle se rassit et continua la voix lente.
Ce monsieur était venu, voilà 3 mois, avec sa sœur, un après-midi qu'il y avait beaucoup de monde, pour voir des présentations de robes au profit d'une œuvre. Moi, je ne l'avais pas remarqué. Mais une camarade me dit « Tu sais, Arlette, tu as fait une conquête, un type épatant, très chic, qui te dévorait des yeux. Un type qui s'occupe d'œuvres sociales, à ce que prétend la directrice. Ça tombe bien, Arlette, toi qui es en quête d'argent. »
« En quête d'argent, toi ?» interrompit Denrys.
« Ce sont mes camarades.
dit-elle, qui me taquine parce que je voudrais fonder une caisse de secours pour l'atelier, une caisse de dot, enfin, un tas de rêves. Alors, une heure plus tard, quand je me suis aperçu qu'un grand monsieur m'attendait à la sortie et qu'il me suivait, j'ai pensé que je pourrais peut-être l'embobiner. Seulement, à ma station de métro, il s'est arrêté. Le lendemain, même manège et les jours suivants. J'en étais pour mes frais, car au bout d'une semaine, il ne revint plus. Et puis, quelques jours après, un soir...
Un soir ?
Arlette baissa le ton. Eh bien, quelquefois, à la maison, le dîner fini et le ménage fait, je quitte maman et je vais voir une amie qui demeure tout en haut de Montmartre. Avant d'y arriver, je tourne par une ruelle assez noire, où il n'y a jamais personne quand je reviens sur le coup de 11 heures. C'est là que, 3 fois de suite, j'ai discerné l'ombre d'un homme dans l'enfoncement d'une porte cochère. 2 fois, l'homme n'a pas bougé, mais la 3e fois, il est sorti de sa retraite et a voulu me barrer le passage. J'ai poussé un cri et je me suis mis à courir. La personne n'insista pas et depuis j'évite cette rue, voilà tout. Elle se tut. Son récit ne semblait pas avoir intéressé Béchou et Van Huben, mais Denris demanda « Pourquoi nous as-tu raconté ces 2 petites aventures? Tu vois un lien entre elles ?»«
Oui.
Lequel ?» J'ai toujours cru que l'homme qui me guettait n'était autre que le monsieur qui m'avait suivi. Mais sur quoi se fonde ta conviction? J'avais eu le temps de remarquer le 3e soir que l'homme de Montmartre portait des chaussures à guêtres ou à tiges claires. Comme le monsieur des boulevards? S'écria Jean d'Henris vivement.
Oui,
dit Arlette. Van Huben et Béchou étaient confondus. Régine, tout émue, interrogea.
Mais... « Vous ne vous rappelez donc pas, Arlette, que mon agresseur de l'opéra portait aussi ces sortes de bottines ?»«
en effet, » dit Arlette, « je n'y avais pas songé. »«
Et le vôtre aussi, Arlette, celui d'hier, le pseudo-docteur Bricou ?»«
Oui, en effet, » répéta la jeune fille, « mais je n'avais pas fait ce rapprochement. C'est à l'instant que mes souvenirs se précisent. »«
Arlette, un dernier effort, ma petite. Tu ne nous as pas donné le nom de ton monsieur. Tu le connais ?»«
Oui. »
Il s'appelle le comte de Mélamar.
Régine et Van Huben tressaillirent. Jean réprima un mouvement de surprise. Béchou haussa les épaules et Van Huben s'exclama.
« Mais c'est de la folie! Le comte Adrien de Mélamar, mais je le connais de vue!
J'ai l'occasion de siéger près de lui dans des comités de bienfaisance. Un parfait gentilhomme, à qui je serais fier de serrer la main. Le comte de Mélamar volait mes diamants.
Mais je ne l'accuse pas du tout. » fit Arlette interdite. « Je prononce un nom. »«
Arlette a raison, » dit Régine.
« On l'interroge, elle répond. »«
Mais il est évident que le comte de Mélamar, d'après tout ce que le monde sait de lui et de sa sœur, avec qui il vit, ne peut pas être l'homme qui vous a épié dans la rue, ni l'homme qui nous a enlevés, vous et moi. »«
Porte-t-il des chaussures à tiges claires ?» dit Jean d'Henris.
« Je ne sais pas, ou plutôt si, quelquefois. »«
Presque toujours, »
dit nettement Van Huben. L'affirmation fut suivie d'un silence, puis Van Huben reprit.
« Il y a là quelques malentendus. Je répète que le comte de Mélamar est un parfait gentilhomme.
« Allons le voir, » dit simplement Denris.
« Van Huben, est-ce que vous n'avez pas un ami qui est de la police? Un sieur Béchou? Il nous fera entrer, lui. »
Béchou s'indigna.
« Alors vous vous imaginez que l'on entre chez les gens comme ça, et que sans enquête préalable, sans charge, sans mandat, on va les questionner à propos de racontars stupides.
Oui, stupides. Tout ce que j'entends depuis une demi-heure est un comble de stupidité.
Denris murmura.
Dire que j'ai joué au cerceau avec cette gourde-là, quel remords. Il se tourna vers Régine.
Cher ami, ayez l'obligeance d'ouvrir l'annuaire téléphonique et de faire demander le numéro du comte Adrien de Mélamar. On se passera du sieur Béchou.
Il se leva. Au bout d'un instant, Régine Aubry lui passa l'appareil et il dit
« Allô, je suis chez le comte de Mélamar. C'est le baron d'Henris qui est au téléphone. Monsieur le comte de Mélamar lui-même ?
Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai lu il y a 2 ou 3 semaines dans les journaux l'annonce que vous avez fait insérer à propos de quelques objets qui vous ont été dérobés. Le pommeau d'une paire de pincettes, une bobèche en argent, une entrée de serrure. » Et la moitié d'un ruban de sonnette en soie bleue. 3 objets sans valeur, mais auxquels vous tenez pour des raisons particulières. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, monsieur?
En ce cas, si vous voulez bien me recevoir, je pourrais vous donner quelques renseignements utiles à ce sujet.
À 2 heures, aujourd'hui ?
Très bien.
Ah, un mot encore. Puis-je me permettre d'amener 2 dames, dont le rôle d'ailleurs vous sera expliqué ?
Vous êtes trop aimable,
monsieur, je vous remercie infiniment.
Denris raccrocha.
Si le sieur Béchou était là, il verrait qu'on entre chez les gens comme on veut.
Régine, vous avez vu sous l'annuaire où demeure le comte ?
13 rue d'Urfé.
Donc, dans le faubourg Saint-Germain.
Régine l'interrogea.
Mais ces objets, où sont-ils ?
En ma possession.
Je les ai achetés le jour même de l'annonce, pour la modique somme de 13,50 francs.
Et pourquoi ne les avez-vous pas renvoyés au comte ?
Ce nom de Mélamar me rappelait quelque chose de confus. Il me semble qu'il y a eu jadis, au cours du 19e siècle, une affaire Mélamar. Et puis je n'ai pas eu le temps de m'enquérir.
Mais nous allons nous rattraper. Régine, Arlette, rendez-vous à 2h10 sur la place du Palais Bourbon. La séance est levée.
Séance vraiment efficace. Une demi-heure avait suffi à Denris pour déblayer le terrain et pour découvrir une porte à laquelle on pouvait enfin frapper. Dans l'ombre, une silhouette se dressait et le problème se posait d'une façon plus précise. Quel rôle jouait dans l'affaire le comte de Mélamar ?
Régine retint Arlette à déjeuner.
Denris s'en alla 1 ou 2 minutes après Van Huben et Béchou, mais il les retrouva sur la place du second étage où Béchou, brusquement exaspéré, avait agrippé Van Huben par le collet de son veston.
« Non, je ne vous laisserai pas plus longtemps suivre une route qui vous mène sûrement au désastre, non. Je ne veux pas que soyez la victime d'un imposteur. Savez-vous qui est cet homme ?»
Denris s'avança.
« Il s'agit de moi, évidemment, et le sieur Béchou a envie de vider son sac. »
Il présenta sa carte.
« Baron Jean Denris, navigateur,
dit-il à Van Huben.
« Des blagues !»
s'écria Béchou. Vous n'êtes pas plus baron que Denris, et pas plus Denris que navigateur.
Eh bien, vous êtes poli, monsieur Béchou. Qui suis-je donc ?
Tu es Jim Barnett.
Jim Barnett en personne.
Tu as beau te camoufler. Tu as beau n'avoir plus ta perruque et ta vieille redingote. Je te retrouve sous ton masque d'homme du monde et de sportsman. C'est toi.
Tu es Jim Barnett, de l'agence Barnett et compagnie. Barnett avec qui 12 fois j'ai collaboré, et qui 12 fois m'a roulé.
J'en ai assez, et mon devoir est de mettre les gens en garde.
Monsieur Van Huben, vous n'allez pas vous livrer à cet individu.
Van Huben, fort embarrassé, regardait Jean Denris qui allumait paisiblement une cigarette, et lui dit
« L'accusation de Monsieur Béchou est-elle véridique ?»
Denris sourit.
« Peut-être, je n'en sais trop rien.
Tous mes papiers en tant que baron Denris sont en règle.
Mais je ne suis pas sûr de n'en avoir pas aussi au nom de Jim Barnett. » qui fut mon meilleur ami.
Mais ce voyage autour du monde, dans un canot automobile, vous l'avez accompli ?
Peut-être. Tout cela est assez vague dans ma mémoire.
Mais que diable cela peut-il vous faire ?
L'essentiel pour vous est de retrouver vos diamants.
Or, si je suis l'extraordinaire Barnett, comme le prétend votre policier, c'est la meilleure garantie de réussite, mon cher Van Huben.
La meilleure garantie que vous serez volé,
monsieur Van Huben. Gronda Béchou.
Oui, il réussira, oui.
Les 12 fois où nous avons travaillé en commun, il a réussi à débrouiller l'affaire, à mettre la main au collet des coupables,
ou à retrouver leur butin.
Mais les 12 fois aussi, ce butin, il l'a empoché, en partie ou au total.
Oui, il découvrira vos diamants, mais il les escamotera à votre nez et à votre barbe, et vous n'y verrez que du feu. Déjà, il a mis le grappin sur vous, et déjà, vous ne pouvez plus lui échapper.
Vous croyez bonnement qu'il travaille pour vous, monsieur Van Huben ?
C'est pour lui qu'il travaille.
Jim Barnett ou Denris, gentilhomme ou détective, navigateur ou bandit, il n'a pas d'autre guide que son intérêt. Si vous lui permettez de participer à l'enquête, vos diamants sont fichus, monsieur.
Ah ça, non !
Protesta Van Huben, indigné.
Puisqu'il en était ainsi, restons-en là. Si je dois retrouver mes diamants pour qu'on me les reprenne, bonsoir.
« Occupez-vous de vos affaires, Denris, je m'occuperai des miennes. »
Denris se mit à rire.
« C'est que les vôtres, pour l'instant, m'intéressent beaucoup plus que les miennes.
Je vous défends. »«
Vous me défendez quoi ? » ?»«
N'importe qui peut s'occuper des diamants, ils sont perdus.
J'ai le droit de les rechercher tout comme un autre.
Et puis que voulez-vous ? Toute cette affaire me passionne.
Les femmes qui s'y trouvent mêlées sont si jolies.
Régine, Arlette, délicieuses créatures.
En vérité, cher ami, je ne lâcherai pas la partie avant d'avoir mis la main sur vos diamants.
Et moi, grinça Béchou, hors de lui, je ne lâcherai pas la partie avant de t'avoir fait coffrer, Jim Barnett.
On va s'amuser alors. Adieu, camarade, et bonne chance. Qui sait, on se rencontrera peut-être un jour ou l'autre. »
Et Denris, la cigarette aux lèvres, s'en alla d'un petit pas sautillant.
Arlette et Régine n'étaient pas lorsqu'elles descendirent d'auto sur cette petite place tranquille du palais Bourbon où Denris les attendait.
« Dis donc, Denris, » fit Régine, « vous ne pensez vraiment pas que c'est l'homme qui nous a enlevé ce comte de Mélamar ?»«
Pourquoi cette idée, Régine ?»« Je ne sais pas, un pressentiment. J'ai un peu peur. Et Arlette est comme moi, n'est-ce pas, Arlette ?»«
Oui, j'ai le cœur serré.
Et après ?»
fit Jean. « Quand ce serait votre homme à toutes deux, croyez-vous qu'il va vous manger ?»
La vieille rue d'Urfé était proche, bordée de ces anciennes demeures du XVIIIe siècle, au fronton desquels se lisaient des noms historiques, hôtel de la Rocheferté, hôtel d'Ourme, tout à peu près semblables, avec des façades tristes, un entresol très bas, une haute porte cochère, et le corps de logis principal au fond d'une cour mal pavée. L'hôtel de Mélamar ne différait pas des autres. Au moment même où Denris allait sonner, un taxi arriva d'où sautèrent tour à tour Van Houben et Béchou, assez penauds l'un et l'autre, mais d'autant plus arrogants en apparence. Denris se croisa les bras avec indignation.
« Eh bien vrai, ils en ont du toupet, ces deux cocola. Il y a une heure, je n'étais pas bon à jeter aux chiens, et les voilà qui s'accrochent à nous. »
Il leur tourna le dos et sonna. Une minute plus tard, une porte pratiquée dans un des battants fut ouverte par un vieillard en culotte courte et en lévite marron, un vieillard tout cassé et tout voûté. Denris dit son nom, il répliqua.
« Monsieur le comte, attends, monsieur, si monsieur veut prendre la peine. »
Et il indiqua du doigt de l'autre côté de la cour le perron central qu'abritait une marquise. Mais Régine eut une défaillance soudaine et balbutia.
« 6 marches. Le perron a 6 marches. »
Ce à quoi Arlette fit écho en murmurant d'un ton non moins éploré.
« Oui, 6 marches. C'est le même perron, la même cour. Est-ce possible ? C'est là, c'est là. »